Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir un passage dans notre Bible, si vous voulez bien le faire avec moi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, s'il vous plaît. Romains, chapitre 14, quelques versets. Et ça commence de cette manière. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges? Un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors voilà un sujet qui est fort intéressant, qui peut plaire ou déplaire. C'est selon. Et j'aimerais justement donner une explication. Nous reviendrons sur le sujet une autre fois parce que j'avais fait une étude de 3 ou 4 volets déjà. Et il y a quelques années, j'en avais donné 2 volets. Là, c'est le troisième en quelque sorte. Mais on aura le temps d'assimiler cette nourriture quelquefois qui peut être indigeste. Il était question de manger. L'explication de ce texte peut être présentée ainsi autour d'une idée générale, devinez laquelle ? La tolérance. La tolérance. Dans la communion fraternelle. Pas n'importe laquelle, mais ce qui nous unit les uns avec les autres, comme Jésus l'a dit, soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Alors il y a quelques petits aspects que j'aimerais en préambule parler devant vous ce matin. C'est les différences entre nous. Il y en a des blonds, des bruns, des yeux bleus, des yeux marrons, voilà. Hein. Il y en a qui ont la barbe, il y en a qui ne l'ont pas, enfin bon, pour rentrer dans les détails. C'est-à-dire que ça, c'est un apprentissage essentiel évangélique pour nous apprendre à respecter ce qu'est l'autre. Non seulement ce qu'est l'autre, mais les mobiles de chacun et d'accueillir, figurez-vous, je dis la suite, sans critiquer. Oui, silence. Sans critiquer. C'est ce que nous avons lu entre le verset 1 et 7. Le deuxième point que nous allons observer ce matin, ce sont nos relations mutuelles. Nous sommes dans une société chrétienne, société d'hommes, de femmes qui ont fait une expérience avec Jésus, nés nouveau naturellement, baptisés par surcroît du Saint-Esprit pour la plupart d'entre nous, et donc il y a forcément des relations. on se dit bonjour, on se dit au revoir, on s'embrasse, avec tous les risques que cela comporte en hiver. Mais toujours est-il, donc il y a un vivre ensemble en reconnaissant Christ comme Seigneur, comme Sauveur, Seigneur et Juge finalement de tous. Ça, c'est ce que nous avons lu entre le verset 8 et le verset 12. Alors, on pourrait peut-être traiter notre sujet ce matin, conscience, opinion et conviction. Il y a du travail. Il y a deux sortes de conscience chrétienne parmi les enfants de Dieu. Il y a les forts et les faibles. Alors, qui est faible? Qui est fort? Quelquefois, eh bien, on s'aperçoit que les faibles ont des forces et que les forts ont leurs faiblesses. C'est pour ça qu'il faut être très, très circonspect. Il y a trois règles impératives qui nous sont données dans ces 12 versets. Trois règles. C'est accueillir, ne pas juger et ne pas mépriser. C'est deux choses différentes, hein, mépriser et juger. Et je vais vous expliquer. Les forts ont tendance à mépriser les faibles. Oh, le petit chrétien. Il peut pas faire ça, il peut pas faire ci, etc. Alors que moi, je peux me le permettre parce que je suis libéré. Et puis, il y a les faibles qui ont tendance, tout simplement, à juger les forts. Comment se fait-il qu'il se permet ceci et cela? Et je suis choqué. Il y a trois raisons à la modération parce que Dieu a accueilli le faible. Deuxième chose, c'est que ce faible agit en conscience sincère pour Dieu et avec Dieu. Et troisième chose, c'est que parce que tout simplement, ce faible, on pourrait parler autant du fort, sert Dieu et seul Dieu le jugera. C'est pas à moi de juger mon frère. Je dis bien, c'est pas à moi de juger mon frère. Alors, quelle sorte de chrétien sommes-nous? Et là, c'est fondamental, mes frères et sœurs, ce que nous touchons. Quelle sorte de chrétien? On peut être baptisé du Saint-Esprit, on peut exprimer les dons spirituels, on peut avoir toutes sortes de choses, on peut avoir une consécration, sans faille, etc., etc. Mais il est question de l'amour. Il est question de la gestion de la vie entre nous, de mes frères, de mes sœurs, de ceci, de cela, etc., etc. Et là, c'est important, parce que le fruit de l'Esprit passe avant tout le reste. Il passe avant tout le reste. Cet accueil dont nous avons parlé il y a un instant, eh bien, est motivé naturellement par le sentiment. Bon, pas n'importe quel sentiment. C'est pas une mièvrerie de dire moi j'aime, c'est du sentiment, c'est quelque chose qui me berce, etc. Une affection charnelle. Non, c'est agapé, c'est-à-dire c'est l'amour de l'esprit. Et c'est important de le souligner. Et cela exprime l'idée d'un empressement pour mon frère, pas d'un détachement, d'un empressement. Le contraire voudrait dire tout simplement, ne repoussez pas celui qui vient vers vous. Ne faites-lui bon visage, même si quelquefois il y a quelque chose qui vous reste à travers la gorge dans la manière dont il fait, dont il parle, et ça peut quelquefois nous contrarier en disant, ben, excusez-moi, il est gonflé, hein. C'est assez populaire, ce que je viens de dire. En d'autres termes, ça voudrait dire soyez charitable avec les uns, avec les autres, les grands, les petits, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre éducation, quelles que soient nos origines, ceci et cela, faites bon accueil. Parce qu'il y a un grand danger, on le voit dans la société, mais bon, la société elle n'est pas chrétienne, il y a un danger d'exclure ceux qui ont des avis différents de nous-mêmes. Et on a tous des avis, et c'est normal. C'est notre liberté, où nous avons des avis donc différents des autres. Et je reviens sur la première pensée que nous avons développée, c'est que les forts sont tentés de se séparer des faibles, enfin, qu'ils jugent faibles, au nom de leur liberté chrétienne. Moi, je suis un ancien. Moi, je connais bien ma Bible. Moi, je connais tous les versets bibliques. On verra ça, on passera en revue, si vous voulez, hein. C'est sûr que sur le bon. Donc j'ai la liberté et je me donne certains droits à cause de la grâce de Dieu. J'ai reçu la grâce de Dieu, donc je suis libre, je fais ce que je veux. Tout simplement. Et puis il y a les faibles. De tirer tout simplement, eh bien, de tirer le rideau, c'est ce que l'on dit l'expression. Il ne veut plus avoir de rapport avec les autres, ou avec certains, avec les forts, au nom de la fidélité et de l'obéissance. Moi, je garde la parole. Je suis le gardien du temple. Comprenez? Moi, celui qui se dit fort, mais il connaît pas la parole de Dieu, moi, je la connais. Donc, je suis véritablement, eh bien, dans la position. Et pourtant, vous avez remarqué ce que dit Paul, ne discutez pas des opinions. Je vais vous expliquer. Opinion et conviction, c'est deux choses différentes. Faut pas faire l'amalgame, hein, parce que là, on se trompe sur toute la ligne. Et je crois que c'est même très grave. Ne discutez pas les opinions. Alors, on va le rappeler. Les opinions, comprenez bien, mes frères et sœurs, les opinions ne touchent pas les principes fondamentaux du salut. On est tous d'accord sur des choses qui sont essentielles et que nous avons acquis par la conversion et que le Saint-Esprit est là et qui, voilà, il est en nous à chaque fois. Mais les opinions concernent toutes les questions diverses relatives à la vie où chacun reste libre et responsable de faire comme il l'entend sans qu'autrui n'ait à le juger ou encore mieux à le condamner. Il y a notre vie spirituelle basée sur les principes, ils sont intangibles. Et ça, on ne va pas les discuter. On ne va pas les discuter. Par contre, il y a tout ce qui correspond à notre vie, y compris, naturellement, notre vie, elle est en Christ. Mais des choses qui sont indifférentes, qui vont pas porter mort d'homme, qui vont pas avoir finalement des conséquences sur mon salut. Alors, on a une grande liberté dans ce domaine. Si les gens veulent faire ceci, s'ils veulent faire cela, s'ils veulent manger comme ça, s'ils veulent manger ceci, s'ils veulent aller partir en vacances, s'ils veulent se donner tel ou tel moyen ou autre chose, mais écoutez, ça les regarde. Ça les regarde. Et ils le font avec une bonne conscience parce qu'ils savent que ce n'est pas péché. Et tout n'est pas péché, mes frères. Heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement, ça serait terrible. Ça serait terrible. Donc, ne pas juger, mais ne pas condamner, c'est la liberté de chacun. Et cette liberté, ils l'ont devant Dieu. Mais Paul le dit à un moment donné, libre à moi de faire ceci et cela, et je ne suis condamné par personne. S'il y a quelqu'un qui doit me condamner, c'est le Seigneur. Il le dit, hein. Et je suis sûr que, par-delà les pages, dans les choses qui ne sont pas écrites, l'apôtre Paul avait certaines libertés, moi je crois. Ah oui, tout en étant, de toute façon, conséquent avec sa foi, naturellement. Alors nous en arrivons au problème des discussions d'opinion, qui sont parfois des disputes de mots. Et vous savez que, hein, il nous en est parlé, des disputes de mots, hein, j'ai pris quelques versets. C'est Paul qui dira ça aux Thessaloniciens. Je vous exhorte à vivre tranquille, en vous occupant de vos propres affaires. Et quelquefois dans l'église, il y a des gens qui s'occupent des affaires des autres. Et ça ne les regarde pas. Qui s'occupent des affaires des autres. Et quelquefois qui se font renvoyer dans les cordes en disant, ben, occupe-toi de tes propres affaires. Et ça fait des fâcheries. Ça fait des histoires. Surtout. Ce qui importe, c'est surtout dans la forme, comme c'est dit. Comme si c'était des censeurs. Comme si c'était des gens qui disaient, mais moi je suis ta conscience. Eh, oh, ça va, hein. C'est bon. Donc, ça fait des disputes de mots, ce que Paul nous rappelle, finalement. Et dans ces disputes de mots, on les farcit, excusez-moi l'expression, on les farcit avec des versets bibliques. Faut que ça rentre, hein. Eh, s'il n'y a pas besoin, on donne un coup de marteau sur la tête. Et faut que ça rentre. Alors, on arrête avec ce genre de choses. Des textes bibliques. Que l'on lance à la figure de celui que l'on veut convaincre comme des boulets de canon pour convaincre et encore mieux vaincre. Voyez un peu le style. Faut qu'il y arrive. Faut sauver cette pauvre âme. Comprenez? Alors l'interlocuteur, eh bien à ce moment-là a toujours tort. De toute manière, peut même pas s'expliquer. On l'a vu et on l'a lu tout à l'heure dans quelques passages. Il est question de, Paul parle aux Romains de manger, liberté de ou pas, de manger, de n'importe quoi, ou de choses choisies. Il est question de la tradition calendaire. Ça est marqué dans les Colossiens, Certains observent des jours, d'autres observent des fêtes, des traditions, le sabbat, etc., etc. Il y a beaucoup de religions chrétiennes qui sont fondées là-dessus. Et puis également le vêtement. Voilà, tout simplement. Le voile pour les femmes ou le chapeau pour les messieurs chez les juifs. Quand si vous allez un jour au mur de Lamentations à Jérusalem, vous avez intérêt à mettre un chapeau. D'ailleurs, si vous ne le mettez pas, on va vous en mettre un comme ça jusqu'aux oreilles. C'est ce qui m'est arrivé. Hein? J'avais l'air doué, moi, mais bon, comme ça, on pouvait pas aller plus loin. Hein. Voilà. Alors, mais bon, on respecte, hein, parce que j'étais pas chez moi, hein, voilà, c'est normal. Ça, ce sont les méthodes des pharisiens. Ah, Jésus avait des grands amis chez les pharisiens. Hein. Mais les pharisiens avaient un grand ennemi, c'était Jésus. Les pharisiens étaient experts en diététique, figurez-vous, et en code vestimentaire. Leur coutume les autorisait, enfin leur façon de penser les autorisait, de décider si un juif, ou si quelqu'un pour nous en général, était ou non dans l'orthodoxie, dans la conduite de la synagogue, du temple, et il fallait pas qu'il sorte des clous, hein. C'était comme ça, c'était pas autrement, hein. Les pharisiens étaient des régisseurs de la conscience d'autrui, de la vie d'autrui. Ils étaient souvent insensibles. Ils étaient sourcilleux jusqu'à au moindre détail, hein, dans les offrandes des herbes, etc., etc. C'est écrit, hein. Moi, j'en invente rien. C'était des gens qui étaient ennuyés à mourir, comme quelquefois certains dans le monde religieux, ennuyeux à mourir, hein, dénué de compréhension et de pouvoir laisser l'autre s'expliquer, de dire quelque chose. Il rendait la vie chrétienne, enfin la vie israélite, ou la vie chrétienne pour nous, il la rendait intimidante, c'est-à-dire que les gens avaient peur. Alors que nous sommes liberté, c'est pour la liberté que vous êtes affranchis, hein, naturellement. Et il la rendait également si peu attrayante et stimulante. C'est-à-dire c'est un culte ou c'est une religion qui n'a pas la joie. Tout simplement. Et ils étaient générateurs permanents de critiques sur critiques. Alors, naturellement, on pouvait se poser la question du temps de Jésus et peut-être encore aujourd'hui dans certains milieux et peut-être dans certaines consciences. Quel genre de chrétiens sommes-nous? De quel côté nous sommes? Alors, c'est ni les uns, ni les autres, ni les forts, ni les faibles. Il faut être au milieu, comme Jésus nous a donné l'exemple de, finalement, l'équilibre. C'est important tout cela, parce que Paul nous le dit, ne discutez pas sur les opinions. À plusieurs reprises, dans d'autres passages, Paul insiste sur l'inutilité des palabres et des discussions vaines et interminables. On a vu quelquefois, là, soit le pasteur ou je ne sais qui prend les chrétiens et qui, là, va les tenir pendant 2 ou 3 heures, juste à temps qu'ils n'en peuvent plus, pour qu'ils puissent dire, maintenant je l'ai convaincu. Non, écoutez, n'oubliez jamais que c'est le Seigneur qui nous convainc. Et c'est certainement par la force et par la poigne, quoi qu'il en soit. Passer des heures et des heures pour essayer, non, écoutez. Et ça ne fait que diviser encore les gens. Ça ne fait qu'augmenter peut-être quelquefois un sentiment mauvais, hein, et ça ne sert à rien. Paul dit que c'est inutile, ça ne sert à rien. Parce que va naître à ce genre de traitement, eh bien, des mauvais sentiments pour raison de différence et raison de divergence. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Paul. L'Église, elle n'est pas monolithique. Elle n'est pas d'un seul bloc. C'est une véritable mosaïque, l'Église, avec chacun nos personnalités, chacun avec ce que nous avons compris, ce que nous n'avons pas compris, et nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Parce qu'autrement, on rentre dans la bagarre. Hein. Puis moi, je veux plus de bagarre. C'est fini. C'est battu. Tellement dans notre vie. Plus de bagarre. L'apôtre évoque une raison supplémentaire qui devrait aider à éteindre les ardeurs des conflits entre chrétiens. Le verset 4 nous dit ceci. Qui es-tu, toi, qui juges? Un serviteur d'autrui, ou ton frère ou ta sœur? S'il se tient debout, ton frère ou ta sœur, ou s'il tombe, parce que ça peut arriver, hein, il y a les deux, hein, cela regarde son maître. Et qui est son maître? C'est toi le maître de ton frère? C'est toi la conscience de ton frère? Alors, cela regarde son maître. Mais il y a une formidable espérance, c'est qu'il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et ça, c'est formidable. Eh oui. Cela regarde son maître, qui est le maître de ton frère, et qui est mon maître à moi. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le Seigneur? C'est important de le dire. Juger selon les apparences, c'est se mêler de ce qui ne nous regarde pas, mes frères et sœurs. Que je roule avec une deux chevaux, enfin c'est un peu passé de mode quand même. Ou que je roule avec une super voiture, excusez-moi. Sans provocation d'autrui, hein. Mais ça regarde chacun, naturellement. Juger, c'est l'affaire de Dieu et non la mienne. Alors, en conséquence, nous devrions tous avoir ce réflexe, c'est-à-dire la conscience de la connaissance de la parole de Dieu. Cette conscience de nos imperfections. Parce que qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Je regarde dans un miroir et je m'aperçois qui je suis. Ça, c'est Jacques qui le dit, hein. Et nous nous sentirons plus le moindre droit de critiquer lorsque je me suis regardé moi-même, de juger et de condamner autrui. La leçon de la poutre et de la paille, excusez, devrait nous arrêter à l'instant. Je dis beaucoup de choses sur l'autre, ceci, cela. Et là, à un moment donné, je regarde dans la glace et je m'aperçois que finalement, sur d'autres plans, sur d'autres aspects, mais je suis comme lui. Alors, ça doit me couper toute envie, finalement, de dire ou de faire quelque chose qui serait répréhensible et qui serait un sujet de tristesse. Me mêler de la vie des autres, selon l'expression que nous avons lue, s'il se tient debout ou s'il tombe, c'est pas ton affaire. C'est l'affaire du Seigneur. Mon frère et sœur, au lieu d'ouvrir la bouche, tu ferais mieux de prier Dieu et de demander au Seigneur que ton frère ne tombe pas, que ton frère soit éclairé. Et que peut-être par la même occasion, en voulant le Seigneur va se servir finalement de ton frère pour le relever et tout ça, et il va te donner aussi une petite leçon. Ne te mêle pas des affaires des autres. Et sois pas orgueilleux. Ne pense pas que tu es un fort. Parce que si moi, Dieu, je te prends finalement dans ce que tu proclames ta force et ta vigueur spirituelle, ben je vais te montrer que tu peux peut-être aussi avoir des abîmes. On n'est que des hommes, mes frères et sœurs. On n'a rien de plus que les autres. Et s'il se tient debout ou s'il tombe, c'est une forme de manque de confiance, c'est douter que le maître de mon frère, c'est-à-dire le Seigneur, ne soit pas capable tout seul de le garder, de le protéger, de le sauver. Et je vais donner un coup de main à Dieu pour qu'il le relève. Ça, c'est terrible. Alors, quelquefois, on se croit autorisé, on se croit investi de pouvoir quasi divin pour faire en lieu et place de Dieu. Et le Seigneur nous dit, mais j'ai vraiment pas besoin de toi. Parce que si on fait les choses avec une main charnelle, on va compliquer la situation. Et que si nous restons à prier tranquille, et que nous demandons avec une sincérité que mon frère qui est en train de tomber, eh bien, que Dieu le tienne et le relève, alors à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ça va être quelque chose de formidable. Oui. Vouloir agir avec la main de l'esprit, mes frères et sœurs. Dans la foi et la main de l'esprit, ce sera la meilleure des solutions. Et elle est royale, cette solution, hein. En lieu et place de Dieu, en sortant, nous les hommes, tout l'arsenal de bon droit et l'artillerie lourde du légalisme. Alors, j'ai toujours appelé comme ça, hein, l'artillerie lourde du légaliste. Moi, je sais pas faire de canon. Vous comprenez, pour certains qui étaient là dernièrement, hein. Mais ça, c'est de la grosse artillerie, hein. Alors, soyons sages, mes frères et sœurs, soyons sages. Parce que cela, si cela regarde son maître, c'est la preuve que notre frère n'est pas à notre service, mais à celui de Dieu, et qu'il appartient seulement à Dieu de le juger au besoin. Quelquefois, il n'aura même pas besoin, le Seigneur, de juger, c'est nous qui jugeons. Il y a toutefois quelque chose de réconfortant, et qui n'est pas de notre ressort. Mais s'il se tient debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Mes frères et sœurs, on en a vu des gens titubés, on en a vu des Jacob qui marchaient à cloche-pied, des Jacob chrétiens, hein, je veux dire, hein. On en a vu de ceux qui frôlaient les murs en disant « Mais du quel côté il va tomber ?» Si ce... Voilà. Et puis, bah, finalement, le Seigneur, c'est lui qui s'en est occupé. Puis on a vu des chrétiens qui partaient en zigzag, et à un moment donné, ils sont repartis droit, puis après ils n'ont jamais dévié. Mais si on apporte notre grain de sel à ce moment-là, eh bien, quelquefois ils ne remettront jamais les pieds dans l'église en disant, ben voilà, c'est pas la peine. Et là, nous aurons perdu notre frère, on le verra la prochaine fois. Le frère pour qui Christ est mort. C'est vrai que c'est une drôle d'histoire ce que nous disons ce matin, et l'étude que nous sommes en train de faire. Moi, perdre mon frère, mais j'ai voulu le sauver. Tu l'as assassiné. C'est terrible. Alors, ne condamnons pas trop rapidement, parce que nous sommes persuadés qu'un tel, à cause d'une certaine liberté, qui nous choque, qui nous dérange, va bientôt chuter, et plus grave encore, nous allons le colporter et le divulguer à tous ceux qui veulent l'entendre. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent exister dans une église. Quelqu'un fait une faute. Alors là, on parle de faute, on parle pas d'opinion, on parle là véritablement de quelque chose. Tu as entendu? Il s'est cassé la figure, il a fait ceci et cela. Mes frères et sœurs, vous savez, Jésus nous dit, faudrait-il que cet homme, ah, je veux pas vous le dire, hein, la molle est jetée dans la mer. Hein. C'est terrible ça, hein. C'est terrible. Hey. On sait une chose. Et parce qu'on ne peut pas la soutenir. Alors là, on n'est pas des forts, on est des faibles. Mais vraiment des tout petits faibles. De dire, voilà, j'en parle, je t'en parle, tu le dis pas. Hein. Tu sais, je te le confie, mais tu le dis pas. Je peux vous dire, c'est le meilleur moyen pour que tout le monde le sache. C'est terrible des choses comme ça. C'est la nature humaine. Moi, j'ai eu un apprentissage, enfin une formation pastorale. Le pasteur qui m'a formé, il m'a dit, Alain, tu vas avoir des secrets. Tu en auras dans tout ton ministère des secrets. Et on en a entendu. On en a entendu des choses qui vous feraient dresser les cheveux sur la tête. Là où on est passé. Et je peux vous dire, il m'a dit, tu les gardes pour toi et tu les reportes devant Dieu, mais tu n'en parles jamais à personne. Et quelquefois, nous avons porté des secrets parce que c'était à la demande des gens qui nous avaient confiés. Vous n'en parlez pas aux autres pasteurs. Nous étions dans une équipe un collège de pasteurs. On était 3 pasteurs. Je tenais ma promesse parce que c'était une chose. N'en parlez pas aux autres pasteurs. Parce qu'ils voulaient que ce soit nous qui gagnions le secret, tout simplement. Mais imaginez-vous, celui qui va et qui rapporte des histoires et qui les dit publiquement, on va prier pour lui. Eh ben, vaut mieux pas prier pour lui tous en collectif parce qu'il y en a qui vont comprendre et d'autres qui vont juger, hein. Et vous leur donnez à commettre le péché, finalement. Ils vont répandre le péché. C'est le livre des Proverbes, il nous est dit, ne répandez pas le péché. Jésus a couvert le péché. Pourquoi ce malin plaisir à vouloir parler d'un frère ou d'une sœur qui est en voie de chute et de le dire à tout le monde? Avec la sacro-sainte, on dit, on va prier tous ensemble. Et parce qu'on sera plus à prier, eh ben, le Seigneur va l'exaucer. Tiens, ça, c'est vraiment pas un raisonnement spirituel. Et heureusement qu'on n'a pas dit tout. Parce que, dans certains péchés moraux, si les choses avaient été sues par le plus grand nombre, la personne apprenait la porte et elle ne revenait jamais. Mais comme il y a ce rapport de confiance et que les choses ont été faites, la personne, après s'être repris de sa faute, a pu réintégrer l'église, reprendre une vie normale, parce que qui dans sa vie ne fait pas des écarts? Qui dans sa vie n'a pas commis une faute? Et si vous le répandez devant tout le monde, ben la personne va avoir une honte pas possible. Et elle changera de rue, elle changera de trottoir, elle partira très très loin, elle ne voudra pas. Mais par contre, si elle sait, après s'être repris, on lui donne la possibilité de se reprendre, parce que ça a été fait entre Dieu, la personne, et puis celui qui en avait la confidence. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas toujours été sage. On a eu quelquefois des paroles assassines. Et les gens, on se dit, l'église ne se remplit pas. Ben oui, mais on verra ça. Mais quelquefois, l'Église, ou certains, ont été les auteurs de faire sortir des gens. Ah oui. Et ça, c'était pas peut-être avec de grands principes, mais c'était pas l'amour, hein, c'était pas la charité. Il couvrira une grande multitude de péchés. Et qu'est-ce qu'il est dit? C'est lié à la prière. Celui qui priera pour quelqu'un qui se perd. Mais il n'est pas dit de le dire à tout le monde. Vous savez qu'on vit dans une société, et ça m'y fait penser un petit peu dans tout ça. On vit dans une société, je vais avoir des mots terribles, qui est détestable et à vomir avec tous les scandales qu'il y a autour de nous en politique et en toute chose. Moi, ça commence à me... Oh, je suis pas là pour vous donner mes sentiments, hein. Mais quand même, c'est terrible ce qui se passe. C'est la guerre déjà. La guerre est déjà là, hein. C'est affreux une chose pareille. Alors faut pas que ça arrive dans l'Église. Et hélas, c'est arrivé. Et on comprend quelquefois l'Église a été décoiffée, donc je veux dire divisée. Alors tout ça, c'est oublier Dieu qui a son mot à dire et qu'il est capable de retenir, il est capable de secourir et même d'affermir celui que nous jugeons déjà par terre. Je dis bien déjà par terre. Nous avons mieux à faire, mes frères et sœurs, que de prognostiquer telle ou telle chute. C'est de prier, nous tenir devant le Seigneur, entre moi qui sais et puis ce qui connaît l'affaire, et puis le Seigneur, premièrement, et de croire à la victoire de Dieu plutôt qu'à la victoire du diable. On est d'accord? Ouais, à la victoire du diable. Moi, je crois plus à la victoire de Dieu qu'à la victoire du diable. D'ailleurs, il y avait des prophéties ce matin qui venaient et qui étayaient dans ce sens. Il est clair que Dieu, partout où il a commencé quelque œuvre spirituelle chez quelqu'un, nouveau converti et puis même l'œuvre qui continue après des années et des années, il est certain que Dieu va achever cette œuvre et fera tout pour son accomplissement parfait. Philippiens, Paul dit dans Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, salut et tout le reste, les fruits de l'Esprit, la rendra parfaite. » Dans Juges, il est dit ceci, « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître dans sa gloire, irrépréhensible. » Nous préserver de toute chute, c'est rêver, hein. À commencer par moi-même, quelquefois je me dis, mais Seigneur, hein, qu'est-ce que je suis, hein. On n'est pas fort, on est faible. Voilà pour la nécessité de la tolérance mutuelle. La tolérance, le savoir-vivre ensemble en nous tolérant. Concernant les questions de différence et d'opinion. Et quelquefois, il y a des choses qui sont véritablement très, très secondaires sur lesquelles on se crêpe le chignon, hein, façon de parler. Maintenant, rapidement, il est bon d'examiner les remèdes à l'intolérance, parce que là, on a mis la main sur le mal. On a vu la plaie. On a vu, finalement, eh bien, ce qui est là, à feu, en quelque sorte. Mais maintenant, il faut voir le remède. La première solution apparaît lorsque Paul écrit ceci au verset 5, et je le lis, « Tel fait la distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Voilà, on a parlé des opinions, on parle des convictions, maintenant. « Que chacun ait en son esprit, non pas seulement dans son intelligence, non pas seulement dans son affectivité, son âme, son cœur, parce que le cœur, il peut nous tromper, mais dans son esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc notre esprit et qui forme la conviction. Toute controverse pénible et inutile disparaît lorsque chacun possède en lui une réelle conviction de ce qu'il a à faire et de ce qu'il n'a pas à faire, ce qu'il ne doit pas faire. Partout où l'on rencontre l'hésitation, le flou, le doute, c'est là que commencent les contestations avec des tentatives d'influencer pour convaincre l'interlocuteur. Une conviction n'est pas le produit d'une contrainte. Le Seigneur nous a convaincus, mais il ne nous a pas martyrisés. Il ne nous a pas écrasés, il ne nous a pas piétinés. Sa main d'amour, l'œuvre du Saint-Esprit est passée sur nos vies. D'accord? Alors, ce n'est pas fait pour nous convaincre, et une conviction n'est pas le produit d'une contrainte de tout notre entourage, de mon frère et ma sœur qui va mener une guerre contre moi en disant « il faut que tu sois ceci, il faut que tu fasses cela, etc. etc. » On peut toujours écouter, il faut écouter. Mais c'est à nous de faire la part des choses. Il faut comprendre le mobile aussi de celui qui vient nous dire ceci et cela. Quelquefois, on a convaincu des gens de pécher alors que c'était même pas un péché. Ça, c'est désopilant, mes frères et sœurs. Alors que c'était même pas un péché, c'était un péché pour lui, mais c'est pas pour ça que c'était un péché pour l'autre. Parce qu'il n'y avait pas de notion morale dans cette affaire. Il n'y avait pas d'infraction particulière. Ce n'est pas non plus l'adhésion, eh bien, pour faire plaisir à quelqu'un. Oui. mais c'est le produit de ce que nous croyons sincèrement et en vérité, de la vérité, pas les apparences. Oui. Si nous avons à faire plaisir à quelqu'un, c'est au Seigneur. On a à faire plaisir, il faut se complaire, on le verra dans l'autre leçon, mais il faut se complaire à notre prochain. Mais je pense que le seul qui est digne véritablement, auquel nous pouvons faire plaisir, c'est le Seigneur. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Connaissez votre Bible. Deuxième point en ce qui concerne les remèdes à l'intolérance. Tout ce que nous faisons ou tout ce que nous ne faisons pas doit être sanctifié par notre reconnaissance à l'égard de Dieu. C'est pas moi qui l'écris, c'est Paul. Verset 6. Que celui qui distingue entre les jours ainsi, qu'il le fasse pour le Seigneur. Celui qui mange, ce sont des choses indifférentes de la vie, ça, hein. C'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur. Et s'il mange, il le fait aussi pour le Seigneur, parce qu'il lui rend grâce de ce qu'il mange. Ça, c'est le verset 6. C'est pour le Seigneur. Et il remercie Dieu de la liberté qui lui est donnée et de l'abondance des biens dont il peut jouir. Ce qui serait fait aux yeux des hommes, pour et devant les hommes, n'a aucune valeur, puisque si je m'abstiens ou non d'une chose, ma motivation profonde reste de plaire librement et joyeusement au Seigneur. Voilà, mes frères. Ah oui, c'est comme ça. C'est pas autrement, c'est Paul qui l'explique, et moi j'essaie de le traduire avec des mots qui soient simples. Quand je le remercie, c'est le signe et la preuve que je cherche à l'honorer. Souvent dans nos églises, on a plein de tabous. Mais des tabous, on en a fait, hein. Comme les Juifs en avaient. Ne touche pas, ne goûte pas, ne vois pas, ne respire pas. En apnée. Bon, vous avez compris, je crois. Alors c'est la preuve que je cherche à honorer le Seigneur, et les moindres détails de ma vie cessent d'être profanes à cause de ma reconnaissance que j'ai pour Dieu, qui est mon Créateur, qui est celui qui me maintient en vie et qui me dit, qui me donne des joies et du bonheur, des bienfaits. Si je veux voir que Dieu donne, est capable de donner du plaisir et du bonheur aux hommes, c'est quelque chose de formidable. Maintenant, si ma piété, très refermée sur elle-même, de juger, de dire ceci, ceci, cela et cela est pas bon. Tout est pur pour celui qui est pur et tout est impur pour celui qui est impur. Ça tombe comme une tranchante guillotine, hein, tout ça. Hein. Mais Paul avait bien vu les choses parce que lui, il était passé du judaïsme extrémiste au christianisme libéré. Alors, ai-je le droit de juger quelqu'un? Et est-ce qu'on a le droit de me juger? Ensuite, l'apôtre va beaucoup plus loin encore, car il fait intervenir dans sa réflexion quelque chose qui ne dépend ni des autres, ni de nous. Cet aspect révèle notre totale insuffisance à mépriser autant la vie que la mort et nous pousse à regarder beaucoup plus haut, naturellement, beaucoup plus grand que nous-mêmes, 7 à 9. Où je lis cette parole. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ici, Paul se fait insistant et répétitif volontairement. Nul pour lui-même, mais pour le Seigneur et nous sommes. En résumé, au Seigneur, ce qui revient à dire que pour vivre ou pour mourir, le Seigneur est mon maître, nous lui appartenons dans l'essentiel et dans ce que nous lui avons donné, comme dans l'essentiel comme dans le secondaire, c'est-à-dire les choses indifférentes de la vie, dans ce qui s'agit des opinions ou que ce soit les convictions. Nous sommes tout au Seigneur et le Seigneur est tout en nous. Dans le souci, ou par le souci de son servir et de sa gloire surtout, et non dans le souci de notre propre égoïsme, de notre profit, de notre satisfaction, de nos intérêts. La question de la mort interpelle, parce qu'il faut l'étendre jusqu'à ces frontières-là. Oui, ça interpelle. Le chrétien doit chercher à glorifier Dieu autant par sa vie, dans ce que nous partageons ce matin, autant par sa mort. Or, si nous pouvons désobéir à la volonté de Dieu, nous pouvons le faire de deux façons. Je les explique. D'abord, en n'étant pas prêt à accepter la mort. Ça, c'est le problème d'effort. Je m'en débrouille bien, je me sortirai moi-même, etc., etc. Je veux pas mourir parce que bon, hein, j'ai plein de force et je suis capable de ceci et cela. Ça, c'est la tentation, finalement, d'effort. Mais il existe aussi une deuxième tentation. C'est le faible qui désire mourir pour en finir avec tous les problèmes de la vie et il refuse de vivre. Ça, c'est la tentation des faibles. Seigneur, emporte-moi, moi j'en supporte plus, je veux plus. Voilà. C'est respectable, hein, naturellement, et on le respecte. Mais il y a aussi une troisième raison, une troisième manière, c'est de vivre ni pour Dieu ni pour les autres, mais uniquement pour soi-même, quand on a perdu la conscience d'être la propriété du Seigneur. Le Seigneur est le propriétaire de ma vie. Ouais, c'est lui, je lui ai donné. On a signé un acte, on l'a dit publiquement, figurez-vous. Cela s'appelle de l'égoïsme, si je vis ni pour Dieu, ni pour les autres, car vivre pour soi, c'est l'essence même du péché. Vous comprenez? L'essence même du péché, c'est l'égoïsme. C'est vivre tout simplement pour nous, et le péché nous dit que c'est une rupture, c'est une séparation entre Dieu et puis la créature. C'est ça le péché. En résumé, notre but est la gloire de Dieu. Notre norme dans nos actions, nos attitudes et comportements, c'est la volonté de Dieu. Je le rappelle, notre but, c'est la gloire de Dieu. Et notre norme ou nos normes, ce sont nos actions, notre comportement, c'est la volonté de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Nous les hommes, à la vie et à la mort, et Christ, à la mort et à la vie, si je peux résumer les choses. À la mort et à la vie. Et quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Nouvelle créature. Car Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants, nous dit le texte que nous avons ouvert. C'est-à-dire qu'il a acquis le droit de régner sur tous. Alors que tout ce que nous sommes désormais en tant que chrétiens, tout ce que nous faisons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, oui ou non, pas ou autrement le contraire, se vêtir et se distraire, ce que nous mettons sur notre tête, sur nos vêtements, etc., etc. La seule chose que, en ce qui concerne le vestiment, en ce qui concerne ici, il faut que ça soit décent. Mais que vous habitiez, en rouge, en vert, que vous veniez là en Bermuda, enfin pas quand même à l'église, mais enfin bon. Mais toujours est-il que c'est le respect des autres et la décence. D'accord, mais on a le droit de faire ce que l'on veut. Regardez, du temps de Jésus, les hommes avaient des robes. Eh oui, imaginez-vous que je vienne moi devant vous là comme ça avec, hein, je me prendrais les pieds dans l'escalier là parce que je suis pas très solide. Alors non, mais voilà. Alors c'est contextuel. C'est inscrit dans le temps, dans l'époque, et souvent nous faisons des interprétations de notre monde d'aujourd'hui avec les anciens hébreux ou même du temps de Jésus, mais c'est un autre monde. Ça, ce sont les formes et les apparences. Mais le reste, l'essentiel, c'est que l'homme est l'homme. L'homme a besoin d'être sauvé, mais c'est pas parce que voilà, il va faire ceci et cela. Il y a les choses essentielles et il y a les choses secondaires. Et ne faisons pas le mélange. Et moi je dis que quelquefois, beaucoup de pasteurs, ou même dans les églises, c'est un manque de connaissances historiques, de l'histoire. C'est ce qu'on appelle finalement, eh bien, l'étude herméneutique de la parole de Dieu. Et elle analyse les contextes, elle analyse les traditions, les politiques, les temps, et toutes sortes, les sociétés, les civilisations. Et ça, le pasteur doit l'apprendre. S'il ne veut pas l'apprendre, il racontera des âneries. C'est dommage, hein. C'est dommage qu'on a forcé quelquefois la conscience pour aller dans un sens qui n'était pas la bonne. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, mes frères et sœurs. Il nous enseigne à vivre dans notre temps. Et nous ne sommes pas en dehors du temps. L'Église de Jésus-Christ est impliquée dans la vie sociétale, dans la vie familiale, dans la vie conjugale, dans tous les domaines. Et ça, si nous voulons rendre un témoignage percutant, un témoignage qui va toucher nos temps et notre génération, il faut être finalement conduit par l'esprit dans un esprit renouvelé et pas rester en arrière, pas passéiste. Alors, Tout cela n'a de sens que dans la mesure où c'est en lui, pour lui et par lui que nous agissons et que nous vivons. La réflexion inverse signifierait que si j'agis par tradition, si j'agis par conformisme, si j'agis par entraînement, ça c'est le danger des faibles qui n'ont pas suffisamment de conviction, ils se laissent conduire par les autres. Ou au contraire, si j'agis en ne me préoccupant de personne, c'est-à-dire pour la satisfaction de ma chair, faire ce qu'il me plaît, c'est le danger des forts. Je sors de la volonté de Dieu, ou je prends des libertés avec la volonté de Dieu, qui implique avant tout ma dépendance à celui à qui j'agis et auquel je veux obéir. À ce moment-là, je sors un peu du jeu. Cette grande vérité que nous parlons ce matin, cette grande vérité, ai-je dit, parfois difficile à expliquer, c'est mon problème, ça, vient justifier le respect que je dois à mon frère, qui ne fait pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, qui ne vit pas comme moi, mais qui pour autant croit dans le même Seigneur et Sauveur que moi. Dois-je le critiquer ou dois-je le respecter? La question, elle est là. La question, elle est là. Je vais bientôt terminer. En conséquence, toute pensée, tout sentiment à l'égard de mon frère, de ma sœur, devrait être toujours préalablement examiné. Regardez, Jésus avec le jeune homme riche, il l'a regardé, il l'a aimé, et ensuite il lui a dit ce qu'il avait à lui dire. Nous, quelquefois, bulldozers que nous sommes, nous commençons à dire les choses sans aimer et sans prêter un regard de tout le contexte et de ce qu'il est lui-même, de ses peines, de ses souffrances, etc. Mais on sort, on y va. Jésus a regardé, il a aimé, et ensuite il a dit. Quelle règle royale, quelle règle formidable. Donc, je disais, je parlais des pensées, des sentiments à l'égard de mon frère, devraient être préalablement examinés, réfléchis, dominés, selon l'ajustement forcé un chapelet de versets bibliques, observé dans l'optique légaliste, mais par le fait que Christ prime sur tout et qu'il est en tout, qu'il est son Seigneur, qu'il est aussi le mien, et que tous les deux, mon frère et moi-même, nous sommes des accueillis et des rachetés. Accueillez-vous les uns les autres. Que nous sommes des accueillis et des rachetés. Si on l'a fait pour moi, qui suis venu au Seigneur dans un état pitoyable. Certains s'en souviennent encore, on m'a pas mis à la porte. On m'a pas dit, Alain, il faut que tu te fasses couper les cheveux, il faut que tu changes de vêtements, il faut que tu fasses ceci, il faut que ta vie soit ceci et cela. On m'a pris, on m'a entouré, et moi je pourrais dire qu'on m'a aimé. C'est comme ça que j'ai grandi. Et moi je voudrais pas faire aux autres ce que l'on m'a fait à moi dans le mauvais sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on me l'a pas fait. Un enfant, quand il vient dans une famille, dans un couple, on va le bichonner, on va lui donner tous les soins, on va l'aimer, on va l'embrasser, on va lui donner toute la tendresse. Si nous voulons déjà normaliser des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont trempé dans toutes sortes de choses, qui ont des vies épouvantables, qui ont touché à la drogue, qui ont touché à toutes les souillures, etc., et on commence à lui donner un ravalement de façade parce qu'il faut qu'il passe bien au milieu de nous, eh ben, je peux vous dire, mes frères, on se trompe complètement et totalement. Ah oui. Laissez leur temps. Ils vous disent, ben voilà, moi j'ai encore ceci et cela dans ma vie, j'ai encore quelques petits loisirs, etc. Si on commence à lui balancer, ben tu dois être comme ça et ceci et cela et arrête tout. Et... Non. Vous savez, on a rencontré des gens, peut-être d'autres l'auraient fait, moi je l'ai pas fait. Des gens qui nous disent, moi je suis un alcoolique. Et je sais de quoi je parle. Une personne, une femme vient me voir en disant, mais ça fait des années. On a pu prendre contact avec elle, on lui a parlé de l'évangile, on a prié pour elle. C'était une véritable et magnifique réflexion. Et elle m'avait dit dès l'abord, je bois, je peux pas m'en empêcher. Je vais pas dire arrêter de boire. Ça s'est fait naturellement après. Tout simplement. Je lui aurais dit, bah, faut arrêter, si vous voulez rentrer dans l'église, faut arrêter. Eh ben, je serais jamais revenu. Et nous avons prié. Et quelques personnes, parce qu'il faut être discret, hein. Pas peine de répondre à tout, c'est un alcoolique, ou c'est une alcoolique. Non, on a prié, puis le Seigneur a fait son œuvre quelque temps après. Elle est venue, elle m'est tombée dans les bras, elle m'a dit, Alain, ça y est, je ne touche plus à la bouteille. Je touche plus à la drogue. C'est pertinent ce que je dis, non? Je ne sais pas, mais vraiment j'ai à cœur. Hein. C'est une question de savoir-faire. Hein. Mais pas savoir-faire parce qu'on a une expérience humaine ou chrétienne, savoir-faire parce que c'est l'esprit qui nous dit. Et l'esprit nous dira un jour tu fais comme ça et le lendemain il nous dira le contraire. Parce que c'est l'esprit qui est la sagesse. La sagesse du Saint-Esprit. Je finis. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ta sœur? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Il y a le fort, au départ, il y a le faible. Puisque nous paraîtrons tous devant le tribunal, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue qu'on se donnera gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que ça, c'est le tribunal de Christ. Hein. C'est pas le tribunal du jugement. Hein. N'allez pas croire à mes frères, hein, parce que vous êtes chrétiens, vous êtes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. D'accord? On est d'accord. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Mais par contre, nous passerons devant le tribunal de Christ, où il y aura la distribution des couronnes et des récompenses. Et là, on verra comment nous nous sommes comportés, comment nous avons été avec les autres. Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même. Quand je juge ou quand je critique ou je méprise, je dresse un tribunal en oubliant ceci, que tous, dans toutes les églises, tous les chrétiens comparaîtront devant Dieu, où chacun rendra compte pour lui-même. Chacun aura à présenter son livre de compte personnel, ce qui implique que je n'ai plus à juger mon frère, puisque Dieu le jugera. C'est pas mon affaire. Et par ailleurs, que moi, j'ai besoin de me juger. Par contre, je n'ai pas à juger l'autre, mais il faut que je me juge moi-même. Et la conscience est là. Et la conscience éclairée par le Saint-Esprit est là pour me dire ce qui ne va pas chez moi. La poutre et la paille. Parce que c'est Dieu qui fera les choses. Avec cette logique toute évangélique, on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure que vous avez mesurée. Et là, ça sera la justice parfaite. Soyons miséricordieux. Soyons charitables. Faisons attention lorsque nous avons quelque chose à dire et de le dire parce qu'on veut se soulager pour le dire, mais de pouvoir véritablement avoir un regard de compassion. Parce que vous savez, il y a des raisons à tout dans la vie. Vous avez des gens qui dégringolent, des chrétiens qui dégringolent, mais pourquoi ils dégringolent? Faut pas voir uniquement la chose accomplie. Son enfance, les maltraitances, les abandons, garçons et filles, toutes sortes de choses ont des raisons d'être. Et vous savez, ce que nous apprenons en bien et en mal dans l'enfance, c'est ce que sera notre personnalité quand on sera adulte. Et Dieu le sait, nous ne le savons pas, alors soyons prudents. Si conclusion il y a, on peut terminer en renvoyant à soi-même le raisonnement qui fait que nous avons bien assez à faire avec nous-mêmes que de s'occuper inintelligemment des autres. Oui. Pour avoir encore le temps ou l'envie de nous mêler de ce que les autres font sur des questions secondaires. Oui, des questions secondaire et que finalement le meilleur remède au problème de la critique et du jugement d'autrui se trouve être dans le devoir de nous accepter, de nous accueillir, de nous aimer les uns les autres avec nos différences. Avec nos différences. Moi, je remercie le Seigneur de nous avoir fait différents les uns les autres. Il aurait pu faire de chacun d'entre nous, eh bien là, tous pareils, vous vous rendez compte? On se serait bien entendu, hein? Vous vous rendez compte? On se serait tous ressemblés. Tous dans la même ligne. C'est l'alignement. Mais le Seigneur nous a donné la liberté d'être ce que nous sommes parce que c'est dans cette multiplicité de caractères, de tempéraments, d'aptitudes, de dons, de toutes sortes, ce qui fait finalement l'Église, c'est sa richesse et son enrichissement. Alors, que le Seigneur nous aide ce matin. J'espère que j'ai pas été trop cruel. Vous ne me répondez pas, donc. Alors, je voudrais simplement vous dire, mes frères, moi, je n'ai pas à me justifier dans tout ça. Il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai pris la parole de Dieu, je l'ai restituée le plus possible par l'étude du texte. C'est tout. Et c'est ça ce qui est important. Soyons des Béréens qui examinaient l'Écriture pour savoir que ce que disait Paul était exact. Alors après, ça, ce sont les convictions. Et après, les Les opinions, accueillez-vous. Accueillez-vous les uns les autres et ne vous rejetez pas. Et que le Seigneur nous unisse par son esprit. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que l'Église a souvent été contusionnée, elle a été griffée, elle a été déchirée, elle a connu des divisions, divisions sur des points ou sur d'autres, à travers des mots qui n'en finissent pas. Mais nous voulons croire, Père éternel, que nous nous présentons devant toi parce que notre envie à chacun, et moi je le crois pour Saint-Nazaire, notre envie, Seigneur, c'est de construire une église qui soit sans rides, ni taches, une église qui ne vieillit pas mais qui se renouvelle. Et nous croyons que le renouvellement n'est pas dans les méthodes et les façons, Seigneur, de gérer, mais c'est avant tout, Seigneur, dans un renouvellement de notre intelligence par l'esprit, et puis de porter des fruits. Celui qui juge et celui qui méprise l'un ou l'autre dans les deux sens, il y a l'absence des fruits de l'esprit. Ça, c'est clair. Il peut y avoir des dons. Les dons les plus fameux, les plus merveilleux, les plus probants aux yeux du monde. Mais Seigneur, ce qui va demeurer, c'est pas les dons, ils disparaîtront. Ce qui demeurera, Seigneur, c'est la leçon du Saint-Esprit en chacun d'entre nous à la ressemblance de Jésus. Parce que notre but, c'est de voir Jésus face à face. Et là, nous verrons les différences qu'il peut y avoir entre lui, nous, et que le Seigneur puisse dire, eh bien, qu'en effet, il nous reconnaît parce que nous lui ressemblons. Et nous croyons qu'il n'y a que l'amour qui peut nous donner de nous ressembler. L'amour, c'est véritablement la plus belle des choses, la foi, l'espérance et l'amour. Alors bénis ton peuple, bénis mes frères et mes sœurs. Il y a ceux qui se découragent, qui se sentent faibles et qui comptent sur toi. Et puis il y a l'effort qui quelque part, eh bien là, joue des épaules en disant, ben moi je suis au-dessus des autres. Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, souvent tu confonds le fort en lui montrant ses faiblesses et tu encourages le faible en lui montrant qu'il a aussi des forces. Seigneur, donne-nous plus jamais de juger, en effet, mais ni même de mépriser. Accorde-nous ta grâce. Ces deux mots, ils sont importants. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.